Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans l'agité du local de ce jeudi 30 septembre, dernier jour du mois. Et aujourd'hui, on va parler de plusieurs choses évidemment. D'abord de la situation à l'hôpital de Mayenne avec une nouvelle manifestation prévue le 9 octobre prochain. Ils ne comptent pas lâcher, que ce soit aussi bien le syndicat FO ou l'association d'usagers ODA 53. On va aussi évoquer cette nouvelle école de production à Château-Gontier, Metallic Valley, qui prévoit de s'ouvrir en septembre 2022. Et puis on poursuit évidemment notre feuilleton autour du lieu collectif Le Grenier, ouvert à Majdaillé, à Ruillé-Froidfond. Et aujourd'hui, on va faire un petit zoom sur les ateliers qui peuvent encore accueillir du public. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité. Le pass sanitaire étendu aux adolescents à partir d'aujourd'hui. À partir de 12 ans et 2 mois, ils devront désormais montrer patte blanche pour aller au restaurant, au cinéma ou pratiquer une activité sportive. 71% d'entre eux ont déjà reçu au moins une dose de vaccin. Le masque qui reste obligatoire pour les écoliers mayennais. Selon un décret publié ce matin au journal officiel, l'obligation du port du masque à l'école primaire sera levée dans 47 départements, mais pas en Mayenne, puisqu'elle a un taux d'incidence supérieur à 52 cas pour 100 000 habitants. Il s'établit à 52, voire même à 104 pour les personnes âgées de plus de 65 ans. Le gaz rétabli à Mayenne et à Ron ce matin, alors qu'ils étaient près de 400 foyers privés de gaz depuis hier soir à cause de la fuite qui a eu lieu hier vers 16h, avenue Gutenberg à Mayenne. 70 personnes ont été évacuées hier soir par les pompiers et 80 personnes ont été mises en sécurité, mais aucune n'a été blessée ou intoxiquée. 40 postes à pourvoir près de Laval lors de l'opération Chope ton job, organisée par le Pôle emploi Laval-Saint-Nicolas. Ce sera mardi 5 octobre entre 9h et 13h dans les locaux de V&B de Bonchamp. 15 entreprises seront représentées et proposeront des postes de chaudronnier, d'opérateur robot, de vendeur ou de mécanicien agricole. Inscription préalable sur recrutement.53007@pole-emploi.fr. 8 lauréats pour l'appel à projet Jardin Partagé. Lancé dans le cadre du plan France Relance, ce dispositif va permettre d'accorder une enveloppe de près de 52 000 euros que vont se partager les jardins familiaux et pédagogiques d'Evron, Ernée, du Genêt-Saint-Ile, de Changé, Chémeray-le-Roi, Nau et les jardins du Cœur à Laval, ainsi que la station gourmande à la maison de quartier Grenoux à Laval également. À Laval, où un nouveau vélodrome va accueillir sa première compétition, ce sera samedi, la finale de la Coupe des Pays de la Loire organisée par Laval Cyclisme à l'Espace Mayenne, au vélodrome juste à côté, avec une dizaine d'épreuves au programme, de la poursuite individuelle, du scratch, l'élimination et la course au point, en présence du cycliste médaillé olympique et paralympique François Pervis. Et puis je vous le disais en tout début de cette émission, une nouvelle mobilisation prévue le 9 octobre en soutien à l'hôpital de Mayenne. Elle est organisée par ODA 53, collectif d'usagers et Force Ouvrière 53. Il s'oppose à la fermeture des services de chirurgie et de soins continus au CHNM, prévu dans le prochain contrat de l'Agence régionale de santé, inenvisageable pour Sébastien Lardeux, secrétaire général FO 53, qui dénonce de possibles fermetures de lits même après la crise sanitaire.
Nous avions déjà en juin et juillet de cette année, on s'était déjà opposé au projet de l'Agence régionale de santé. Ils reviennent avec le même projet, juste quelques, j'allais dire, fioritures autour, une méthodologie différente pour faire accepter le projet. Comme on était contre en juillet, août, et c'est le même projet, nous continuons à être contre et nous continuons à nous mobiliser contre le projet de fermeture de la chirurgie, de l'assurance continue à l'hôpital de Mayenne. Il n'y a pas de tentative de concertation avec l'ARS. La définition de la concertation par l'ARS, c'est je décide et après vous discutez de la mise en place de ma décision. Il n'y a pas de concertation avec l'ARS. On a dit non au mois de juin et juillet, quand c'est non, donc on reste sur la même position. RS est incapable de nous répondre quand on lui pose la question, est-ce que ça va régler le problème financier de l'hôpital de Mayenne? Bien sûr que ça ne la réglera pas, puisque si on baisse notre activité, on baisse nos recettes, donc on n'améliore pas le problème financier de l'hôpital de Mayenne. De plus, fermer une partie de l'hôpital, ça ne va pas non plus régler le problème de l'attractivité médicale et faire venir des médecins. Fermer une partie de l'hôpital de Mayenne, c'est bon pour nous. Mais non, c'est pas bon pour les Mayennais de fermer une partie de l'hôpital de Mayenne. D'ailleurs, Laval est incapable de reprendre l'activité de l'hôpital de Mayenne. Laval sont aussi en difficulté. Donc, où iront se faire soigner les Mayennais? Ne soyons pas naïfs. Hein. L'objectif de l'ARS, c'est de transformer l'hôpital de Mayenne en hôpital local de gériatrie. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. Si vous fermez la chirurgie, si vous fermez l'assurance continue, la chirurgie conventionnelle, dans quelques temps, on s'attaquera à la maternité. Ça se passe toujours dans ce sens-là. Nous, tant qu'il nous restera du souffle, on continuera à se battre pour maintenir l'hôpital de Mayenne. Je veux dire, il faut être clair, on mettra toute notre énergie pour ça. Le Nord Mayenne, on est dans un désert médical. Est-ce que fermer une partie de l'hôpital en plus, ça va améliorer le désert médical? Mais non, bien sûr que non, on va accélérer la problématique. Il faut régler ce problème de désert médical. Et on ne ferme pas un hôpital dans un désert médical, ça ne se fait pas.
La manifestation est prévue le samedi 9 octobre à 10h30 avenue Hoche à Mayenne. Un rassemblement à Paris devant le ministère de la Santé pourrait avoir lieu, lui, au mois de novembre prochain. Une première école de production, elle ouvrira la rentrée prochaine à Château-Gontier. Tous les détails et toutes les infos à venir d'ici 3 minutes, le temps d'écouter Soumti avec Citizou. I woke up this morning and decided I am gonna visit the zoo today. How come? 'Cause I'm fascinated by wild animals. So, are you gonna go to Glasgow Zoo? Nah, Glasgow City doesn't have a zoo. I'm gonna go to Edinburgh. How come? 'Cause Glasgow City doesn't need a zoo. Glasgow City is a zoo. No begging for mercy to white Mercedes. Been to well and danced in 80s. Came right back for the one in the delivery room. Dans l'AJT du local, vous êtes toujours à l'écoute de l'autre radio. Et on poursuit évidemment cette émission de jeudi. Aujourd'hui, on parle d'une première dans le département. Une école de production ouvrira ses portes en septembre 2022 à Château-Gontier pour se préparer au CAP métallier avec une majeure partie de cours pratiques en atelier. Une nouvelle formation présentée par le directeur de cette école, Métallique Valais.
Hugues Le Guével, donc je suis le directeur de l'école de production Métallique Vallée Sud-Mayenne qui s'installe, qui s'implante en ce moment sur Château-Gontier.
Justement, cette école qui va donc ouvrir en septembre 2022, qui en a été à l'origine? Quelle était l'idée de départ?
Alors, à l'origine de l'école, il y a des entreprises du territoire qui, dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises et parce qu'elles ont envie de valoriser le territoire du Sud-Mayenne, ont décidé de se regrouper pour proposer un projet de formation qui soit professionnalisant, citoyen, culturel aussi, à des jeunes qui auraient de l'appétence, qui montreraient de l'appétence pour une formation technique, manuelle, mais pas que, et qui souhaiteraient toucher la matière dans le cadre de leur formation.
Puisque l'idée, justement, à partir de septembre 2022, c'est qu'il y a 12 élèves qui pourront s'inscrire pour faire un CAP serrurerie-métallerie, c'est ça?
Alors, le CAP serrurerie-métallerie disparaît à la fin de cette année scolaire et il s'appellera le CAP métallier, mais ce sera quasiment la même chose. Hein, voilà. Donc, CAP métallier, effectivement, en 2 ans, dans le cadre atypique, un petit peu, en tout cas, qui n'existe pas pour le moment sur le territoire, d'une école de production.
Qu'est-ce que c'est qu'une école de production? Comment ça fonctionne?
Alors, l'école de production, c'est d'abord une association loi de 1901. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est à but non lucratif. Et l'inscription à l'école sera totalement gratuite. C'est une école, par son statut, qui relève aussi de l'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est pour décrire le contexte social, si on veut. Le projet, ensuite, c'est quoi? Eh bien, c'est le jeune. En école, 37 heures par semaine, 40 semaines sur l'année, donc seulement 12 semaines de vacances, 37 heures par semaine à l'école, 60% en atelier, à produire, à fabriquer, et surtout à apprendre en fabriquant, et 40% en cours d'enseignement général, correspondant exactement au référentiel éducation nationale, que ce soit d'ailleurs pour la partie atelier ou pour la partie enseignement général. Puisque le diplôme que nous proposerons, les jeunes seront sous statut scolaire, et le diplôme que nous proposerons sera un CAP éducation nationale.
Il y a ce cadre quand même de l'éducation nationale, mais là on est effectivement sur une formation, en tout cas à la frontière de ce qu'on peut déjà trouver sur le territoire. On n'est pas forcément dans un lycée pro, puisque c'est une école de production, mais c'est pas non plus en apprentissage, c'est une voie un peu entre les deux qui peut convenir à qui, par exemple?
C'est exactement ça, c'est une troisième voie d'orientation professionnelle inédite sur le territoire et qui peut convenir à des élèves qui ne se retrouvent plus dans le système traditionnel où on passe beaucoup de temps assis dans une salle de cours à écouter et où on pratique très peu, et qui s'adresse aussi à des jeunes à qui l'apprentissage ferait peur, entre guillemets, en se disant je ne suis pas assez mûr pour, par exemple, avoir un CFA qui serait à Laval et puis une entreprise qui m'embaucherait qui serait sur Renazé, et faire l'aller-retour entre Renazé et Laval, ça me paraît un petit peu compliqué parce que je viens juste d'avoir 15 ans, etc. Et l'école de production, c'est 100% dans un lieu unique.
Alors, donc là, on a bien compris, l'école va ouvrir en septembre 2022, mais ça commence déjà maintenant, forcément, puisque l'orientation, elle va se décider à partir du mois de janvier. Et justement, vous proposez là aussi des moments où on pourra tester, en tout cas, cette formation.
En fait, l'école est ouverte, mais le CAP ne sera installé qu'à la rentrée de septembre 2022. Ce qu'on fait là, pendant l'année scolaire 2021-2022, d'abord, on prend le temps de se mettre en place entre septembre et décembre. Ensuite, à partir de janvier, on va accueillir des jeunes en immersion. En ce moment, je vais à la rencontre de tous les chefs d'établissement des collèges du Sud-Mayenne, grosso modo de Cossé-le-Vivien à Renazé et Mêlée-du-Maine, en passant bien évidemment par Château-Gontier. Et je leur propose de conventionner avec l'école de production de manière à ce qu'on puisse accueillir des jeunes qu'ils auraient repérés ou des jeunes qui le souhaiteraient en immersion à l'école de production pendant au minimum une période de 5 jours entre janvier et le mois de juillet, avec possibilité de reconduire. L'exemple que je prends assez communément, c'est celui de la visite d'appartement. Vous avez fait une première visite, ah, ça a l'air pas mal, vous demandez une contre-visite, et la contre-visite confirme votre goût ou vous fait dire, bah non, finalement, ça ne me plaît pas du tout. C'est un peu le système qu'on va proposer aux jeunes.
Vu qu'on est sur une formation professionnelle et avec beaucoup de pratiques, il faut que ça plaise là aussi, forcément.
Ah bah oui, le jeune qui ne va pas aimer toucher la matière, qui ne va pas aimer utiliser des outils, qui ne supportera pas le moindre bruit, puisqu'on est quand même dans de la métallerie, effectivement, voilà, il a plein d'autres choses à découvrir, plein d'autres choses à faire, et il réussira parfaitement sa vie. Mais il y en a qui peuvent découvrir, qui peuvent se former, et qui peuvent s'éclater, et qui peuvent réussir leur vie en commençant par un CAP métallier, et en poursuivant.
L'idée, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est pas forcément de s'arrêter en tout cas au CAP métallier, il y aura même un bac pro qui sera proposé ensuite.
Alors on espère dans 3 ans ouvrir un bac pro métallier. Surtout l'important, c'est que cette école doit être un tremplin, absolument pas un cul-de-sac. Le but n'est pas de prendre des jeunes et de les formater pour qu'ils travaillent pour telle ou telle entreprise, c'est de leur donner des compétences générales qui seront applicables ensuite dans une multitude d'entreprises, mais aussi dans d'autres secteurs d'activité. Quand on sait lire un plan à l'école de production, on sait lire un plan dans n'importe quelle formation et dans n'importe quelle entreprise. Et nous, notre rôle, ce ne sera pas que tous nos élèves aillent en entreprise après le CAP ou qu'ils s'arrêtent au CAP, etc. Notre rôle, ce sera de les pousser à aller plus loin. Alors, soit dans des entreprises qui sont partenaires de la création de l'école de production, qui leur proposeront de poursuivre leur formation, soit à l'intérieur de l'école de production si on crée le bac pro, mais aussi ailleurs, via l'apprentissage dans d'autres entreprises, via un bac pro, via un BTS, dans un lycée d'enseignement professionnel, etc. Il ne s'agit surtout pas de limiter les jeunes dans leurs compétences, ni de les limiter dans leur espace géographique, etc. C'est une école qui va leur mettre le pied à l'étrier. En tout cas, nous, c'est notre objectif.
Avec du coup ce que vous venez de dire, ça va à l'encontre d'une idée reçue qu'on peut avoir en tout cas en voyant ce projet au départ, qui est de se dire qu'en fait les entreprises qui sont à l'origine, qui ont impulsé le projet, viennent y chercher et y former finalement leur future main d'œuvre uniquement.
Alors parmi les 4 entreprises, je vais citer leurs noms, hein, les 4 entreprises qui sont à l'origine du projet sont Maisonneuve, Sodistra, Fast Metal et Seru. Pour les gens qui connaissent un petit peu ces entreprises, il n'y en a que 2. Qui travaillent directement dans la serrurerie métallerie, qui sont Seru et Fast Metal. C'est vrai que Maisonneuve a une filiale ATS qui est dans ce domaine-là, mais par exemple, Sodistra ne recrutera jamais quelqu'un qui a un CAP métallier, en tout cas pas directement, sauf à le former justement sur d'autres compétences applicables dans son entreprise. Et puis d'autre part, la capacité d'accueil sera fixée à un maximum de 12 jeunes par an. Les 2 entreprises que j'ai citées, Seru et Fast Metal, n'auront pas à elles seules la capacité à accueillir 12 jeunes sortant de CAP chaque année. Donc il est évident que cette école n'est pas une école Seru, Fast Metal, Maisonneuve. C'est une école ouverte, une école qui est prête à travailler avec tout le monde, associatif, entreprise, etc. Le but étant vraiment d'animer le territoire et puis d'aider des jeunes à s'épanouir, à acquérir des compétences.
Donc une école ouverte, on l'a compris, mais c'est quand même pas un hasard, malgré tout, d'avoir choisi un CAP métallier, c'est qu'il y a des besoins sur le territoire.
Alors, il y a des besoins et surtout, il y a, mine de rien, sur Château-Gontier, beaucoup d'entreprises qui travaillent dans ce secteur-là. Le nom de l'école est un petit peu drôle, voilà, c'est un clin d'œil, Metallic Valley. Alors, bien évidemment, tout de suite, on pense à la Silicon Valley. C'est le but. Metallic Valley, pourquoi ? Parce qu'on a effectivement du lycée Pierre et Marie Curie jusqu'à la route de Sablé. On a, par rapport à la taille du territoire, on a une densité d'entreprises travaillant dans la métallerie qui est quand même assez impressionnante.
Et donc, si on veut aussi découvrir, même quand on est parent, comment est-ce qu'on peut se renseigner ?
Alors, si vous souhaitez échanger avec le directeur de l'école, donc avec moi-même, c'est tout à fait possible. C'est un numéro pro, 06 75 36 25 88. Nous ferons aussi une journée portes ouvertes au mois de janvier. La date n'est pas exactement fixée, mais ce sera un dimanche, ce qui normalement peut permettre à tout un chacun de venir. Donc ce sera, et puis il y aura surtout les fameuses immersions, mais qui seront préparées en accord avec les établissements scolaires. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de m'appeler pour me demander de faire une immersion si votre enfant est inscrit, par exemple, au Collège Saint-Michel, ou au Collège Jean-Rostand, ou au Collège Paul-Émile-Victor. Je travaille en ce moment avec les chefs d'établissement et on est en train de mettre en place la chose ensemble. Donc, si votre gamin est intéressé, ou votre gamine d'ailleurs, hein, on n'a rien contre les filles, ça passera forcément par l'intermédiaire de son établissement scolaire.
Ça peut être, oui, on le rappelle, des élèves de 3e, mais aussi des élèves peut-être décrocheurs ou autres.
Alors, un élève de 3e peut être décrocheur. Après, le décrochage, c'est extrêmement varié, mais pas forcément. C'est-à-dire que le jeune qui trouverait le projet intéressant, voilà, si ça matche entre nous, qu'il est intéressé, qu'il respecte les règles de sécurité, qu'il a un savoir-être correct, etc., il n'y a pas de raison qu'éventuellement il n'intègre pas l'école de production, dans la limite des 12 places pour la rentrée prochaine. Et c'est bien pour ça que dans le cadre des relations avec les établissements scolaires et les familles, bien évidemment, il sera plus que recommandé aux jeunes et aux familles de préparer une orientation éducation nationale via AFELNET, etc. Parce que nous ne serons jamais mieux qu'un plan B pour le jeune. Le plan A, ça doit être toujours une affectation via AFELNET. Parce que imaginons que nous ayons 30 demandes, on peut rêver, hein, 30 demandes pour l'année prochaine, nous avons 12 places, et ben on sera obligé de dire non à 18 jeunes. Et ben ces jeunes, il faudra qu'ils aient prévu un plan A. Donc être séduit par l'école de production à partir du mois de janvier, etc., ce ne sera pas forcément la solution à l'orientation pour un jeune de 3e l'année prochaine. Je reviens 30 secondes sur le profil des jeunes. Ce ne sont pas les notes qui comptent. Ce qui compte, c'est la motivation. La motivation et le savoir-être. Et l'adhésion au projet. Voilà, nous, les immersions, ce sera l'occasion vraiment d'exposer ce qu'on veut faire, dans quel état d'esprit on veut travailler. C'est le jeune qui décidera s'il veut donner suite ou pas. Et puis nous, de notre côté, on verra aussi si on pense qu'on aura du plaisir, parce qu'à un moment, il faut parler de plaisir aussi dans la formation, si on aura du plaisir à travailler avec lui pendant 2 ans, voire 4. C'est très important, effectivement, parce que si au bout de 6 mois, on ne s'entend plus, ça remet en cause le projet. Mais nous nous engageons à accompagner le jeune, dans ce cas-là, vers une reconversion, si on veut, en tout cas une affectation nouvelle. On ne lâchera personne dans la nature, mais c'est un engagement sur au moins 2 ans, un engagement réciproque. Donc il faut, ce sera une petite communauté, hein, 12 personnes plus les pros, voilà, une petite communauté de 20 personnes grand maximum. Faut bien s'entendre pour que ça se passe le mieux possible.
Les locaux pour la rentrée 2022 seront situés en face de Protect Homes à Bazouges, à découvrir lors des portes ouvertes au mois de janvier. On revient avec la chronique littéraire de Christophe Demiranjou, juste après The Do avec Only Takes a Night. If I'm a joker and a fool tonight, if I'm a shadow at the bar, no one will listen anyway, so I'll complain and whine out loud. Oh, hold me closer, hold me tight, someone, I wanna dance and hit the ground.
Mess around.
de dos dans l'agité du local sur l'autre radio avec leur titre Only Takes a Night, c'est ce que vous venez d'entendre. C'est le retour des chroniques littéraires dans cette émission avec aujourd'hui, on commence par un coup de cœur de Christophe.
Émilie Ranjou, à Château-Gontier, vous présente chaque semaine son coup de cœur littéraire. Pour les grands et les petits.
Bonjour l'autre radio, bonjour à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Deuxième roman de Mathieu Palin, qui est à la fois reporter journaliste pour la revue 21, entre autres. Il avait fait il y a 2 ans un livre qui s'appelait « Sale gosse », qui était véritablement intéressant d'un point de vue sociologique. Et d'ailleurs, il y a toujours un peu de la sociologie chez Mathieu Palin. Son nouveau livre, toujours dans cette maison d'édition qui s'appelle l'Iconoclaste, s'intitule « Ne t'arrête pas de courir ». Eh bien, c'est le tout premier livre de la rentrée littéraire que j'ai lu et il m'a beaucoup ému. Voyez-vous, Mathieu Palin est un sportif. Lui, tous les jours, il fait du sport, il lit le journal L'Équipe. Et puis, voilà, il y a un type qui revient de temps en temps dans le journal L'Équipe et qui revient aussi dans la presse générale au niveau des faits divers. C'est un coureur français du nom de Koulibaly. Cet homme a un potentiel incroyable. Il vient de gagner les 400 mètres en athlétisme avec un record de France à la clé. Voilà, c'est un jeune prodige qui a un avenir tout tracé dans l'équipe de France, pour les JO, etc., etc. Sauf que ce coureur, Koulibaly, ne se met pas uniquement en avant sur les pistes, mais aussi dans la rubrique des faits divers, puisque, figurez-vous, il collectionne les braquages. Oui, une sorte de Arsène Lupin, mais un piètre Arsène Lupin, qui court très très vite et qui ne peut pas s'empêcher, semaine après semaine, de faire de petits larcins dans des magasins, à droite, à gauche. Et bien évidemment, M. Koulibaly va avoir des problèmes avec la justice. Première fois, deuxième fois, vous savez, la justice laisse encore une chance à ces personnes de se rattraper. Et bien là, Koulibaly, paf, c'est la prison ferme. Il en prend pour plus de 3 ans. Et voilà qu'un sportif de haut niveau, avec un sportif extrêmement prometteur, voilà, se retrouve en prison. Alors Mathieu Palin, qui aime le sport, qui aime l'actualité, il se dit, mais j'ai envie de savoir qu'est-ce qui peut se passer dans la tête de ce gars. Il a quand même une vie qui lui promet beaucoup de succès, beaucoup d'argent. Et pourquoi, en fait, il va passer son temps à faire des petits vols, des petits casses qui vont lui rapporter 20, 40, 50, 100 euros max. Et il les collectionne. Alors, Mathieu Palin va envoyer une première lettre à Koulibaly en prison. Et voilà le début d'une rencontre entre ces deux hommes. Mathieu Palin va gagner la confiance de Koulibaly et au fur et à mesure, ils vont se rapprocher, ils vont devenir amis. Mathieu Palin va essayer de savoir qu'est-ce qu'il peut se tramer dans la tête de ce sportif de haut niveau pour en être réduit à cet état de petit escroc. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est que ce rapprochement, ces conversations qu'ils vont avoir au parloir ou qu'ils vont échanger à travers des courriers, eh bien, tout ça va véritablement changer les deux hommes. Parce que Mathieu Palin a vraiment l'intention de l'aider à sortir de cette mauvaise addiction. Et puis, Koulibaly, il prend conscience qu'il est peut-être à un âge où là, il est temps d'arrêter les conneries. Eh bien, c'est un superbe texte qui va rapprocher deux hommes et qui va nous faire rentrer dans la tête de ce coureur. Et j'ai été vraiment très ému parce qu'il y a un sentiment extrêmement humain, humaniste dans l'approche des deux hommes. Et c'est une enquête, un récit vraiment passionnant, qui m'a beaucoup ému, et je le répète. Voilà, Ça s'appelle « Ne t'arrête pas de courir ». C'est signé par Mathieu Palin aux éditions L'Iconoclaste.
Retrouvez « Aime lire en joue » 10 places Paul Doumerc, à Château-Gontier ou et sur l'autre radio.
Et sur l'autreradio.fr, vous pourrez retrouver, réécouter cette chronique si justement vous n'avez pas eu le temps de noter toutes les références. Et la prochaine chronique sera diffusée mardi à 7h30. Notre feuilleton cette semaine, vous le savez, vous emmène au grenier à Majdaillé, à Ruillé-Froidfond, en plein cœur de la nature, dans ce lieu un petit peu particulier, un lieu de vie collectif où il y a aussi un lieu ouvert au public, le grenier, où différents ateliers sont organisés assez régulièrement et certains sont encore à la recherche de participants. Sophie, qui fait partie de l'association Le Grenier, nous dit lesquels.
On a une super personne, Marion Rousseau, qui vient donner des ateliers de chant. Et il nous reste encore de la place pour que le cours puisse continuer dans le temps, parce qu'elle habite quand même un peu loin, elle habite à trois quarts d'heure. Et donc, ce serait toutes les semaines. Ou si les choristes préfèrent toutes les deux semaines, on est encore en train de se décider. C'est un répertoire de chants d'Italie, de Géorgie, donc plutôt chants du monde. Et c'est accessible à tous, autant les débutants que, par exemple, moi qui suis plutôt à l'aise avec le chant, je ne me suis pas ennuyée une seule seconde. Au contraire, j'ai dû m'accrocher et ça fait vraiment plaisir là, de pouvoir chanter tous ensemble. C'est le mercredi de 19h à 21h. C'est l'atelier, on va dire, le plus fragile parce qu'on a vraiment besoin d'un minimum, ne serait-ce qu'en fait, il y a beaucoup de chants qui sont à trois voix. Donc, quand on est deux par voix, ça va, mais c'est un peu juste. Si on pouvait être trois fois trois voix, ce serait vraiment super. Mais là, ça commence, là. On commence à avoir un peu plus d'inscriptions. Je pense que le bouche à oreille marche, donc on croise les doigts. Et puis, il y a l'atelier de clown. Mais alors, il y a deux ateliers de clown différents. Celui qui se passe le jeudi soir, le quatrième jeudi soir du mois, est ouvert à tous, débutants compris. Et celui qui s'adresse à des gens qui ont déjà une petite pratique, c'est un atelier qui s'appelle Atelier Clown Création, se déroule le premier et troisième jeudi du mois. Voilà, et donc cet atelier de clown création, je crois qu'il manquerait encore un ou deux clowns pour avoir un groupe parfait. Mais de toute manière, faut vous contacter, je pense qu'il reste de la place à peu près partout.
Et demain, on s'intéressera à un atelier encore en construction, celui sur le documentaire sonore. Merci de nous avoir écoutés depuis le début. C'est la fin de notre émission La JT du local pour aujourd'hui. À suivre à l'antenne à 19h, il y aura La Chambre Verte qui nous emmène grâce à quelques accords de guitare dans le café d'Alain Pierre, suivi à 21h All Blues, une heure de rétrospective du festival Saveur Jazz à Segré, c'était en le mois de juillet, et une heure de blues. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à demain.